Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. Après 6 mois de service en Afghanistan, les membres des forces spéciales de l'armée tchèque sont décorés par le Premier ministre. Le ministère de la Défense souhaite conclure avec l'Irak un accord de vente de l'avion de combat L-159. Et enfin, météo, neige abondante, vent glacial et brouillard épais ralentissent considérablement la circulation automobile et ferroviaire dans de nombreuses régions du pays. Le Premier ministre Petr Nečas a décoré aujourd'hui à Prostějov les forces spéciales de l'armée tchèque ayant servi dans le cadre de la mission internationale de sécurité et d'assistance, ISAF, de l'OTAN en Afghanistan. L'envoi d'unités spéciales dans la mission de l'ISAF avait été décidé en octobre 2010 par le gouvernement. En plus des missions de combat et de maintien de l'ordre, les soldats tchèques ont pour objectif la formation d'unités spéciales de l'armée afghane afin de créer les conditions d'un transfert aux autorités afghanes des responsabilités en matière de sécurité. Lors de la cérémonie de remise des médailles, étaient présents aux côtés du Premier ministre, le ministre de la Défense Alexander Vondra et le chef de l'unité des forces spéciales Andrzej Palenik. Défense toujours. Malgré l'absence du Premier ministre Nouri al-Maliki, le ministre de la Défense tchèque espère que la délégation irakienne qui se rendra à Prague prochainement se décidera pour l'achat de l'avion de combat de fabrication tchèque L-159. C'est ce qu'a annoncé à l'agence de presse tchèque ČTK le ministère de la Défense par la voix de son porte-parole Jan Pejšek. D'après l'ambassade irakienne à Prague, la visite de la délégation est motivée par le souhait de Bagdad de resserrer les relations économiques entre les deux pays. L'ambassadeur irakien n'a pas précisé si la visite aboutira à l'achat des avions de combat. Il a en revanche précisé que le ministre de la Défense Khalid Ubaidi sera également du voyage. L'hiver s'installe finalement sur le pays et sème le trouble dans la circulation. Après plusieurs semaines de météo clémente, un front d'air froid accompagné d'abondantes chutes de neige et de vents glacés se sont abattus en plusieurs endroits de la République tchèque, occasionnant de nombreux embouteillages, des accidents et compliquant considérablement le trafic ferroviaire. De nombreux camions bloqués par la glace et la neige perturbent durablement la circulation dans le nord de la Bohême, dans la région de Plzeň et dans la Vysočina. Cure de rajeunissement pour l'horloge de la vieille ville. Les restaurateurs des monuments anciens ont enlevé les 4 premières statuettes de la fameuse horloge de la vieille ville afin de procéder à leur restauration. La dernière en date avait eu lieu en 1999. Les spécialistes répareront cette fois les bois fissurés et abîmés par les intempéries. Ils renouvelleront en outre les dorures et retoucheront les peintures qui avaient peu à peu disparu. Les responsables de l'horloge assurent que celle-ci continuera de fonctionner malgré l'absence des statuettes et annoncent que l'horloge sera à nouveau complète et rénovée au plus tard le 15 mars prochain. Quelques mots de tennis, victoire tchèque et slovène à la finale du double féminin de l'Open d'Australie. Les joueuses tchèques et slovènes Květa Peškejová et Katarína Srebotníková ont remporté la finale du double féminin de l'Open d'Australie face aux américaines Lise Raymond et Lisa Lubert au terme d'un match en 3-7 gagné 6-1, 4-6, 13-11. L'an dernier, les doublistes tchéco-slovènes avaient gagné le tournoi du Grand Chelem de Wimbledon, ce qui leur avait valu le titre de meilleur couple de l'année. La joueuse tchèque Květa Peškejová vient donc de remporter aujourd'hui son 23e titre en double. Côté météo enfin, demain nous serons le samedi 14 janvier, jour de la fête des Radovanes. Le temps sera plutôt nuageux avec des éclaircies sur l'ensemble du territoire. Des chutes de neige et du verglas sont attendues dans les montagnes et dans l'est du pays. Les températures seront comprises entre moins 1 et 3 degrés et descendront à 4 degrés à partir de 1000 mètres d'altitude. Ce bulletin d'information s'achève. Il vous a été présenté par Paul Bauer. La suite du programme dans un instant.
Faits et événements en République tchèque.
Bienvenue sur Radio Prague et merci à Paul Bauer pour son bulletin d'information. Aujourd'hui, dans notre magazine d'actualité, nous parlerons des baby box, ces fameuses boîtes à bébés qui devraient continuer à exister en République tchèque malgré une critique de l'ONU. Un projet éducatif, un livre inspiré de l'histoire de Nicolas Winton qui a sauvé en 1939 plusieurs centaines d'enfants tchèques et slovaques d'origine juive ont été présentés cette semaine au Sénat tchèque. Les détails dans cette émission. À la fin de notre programme, nous visiterons la boutique boutique pragoise Provence Nature qui importe des produits régionaux du sud de la France en République tchèque. Très bonne écoute à toutes et à tous. En juin dernier, l'ONU avait vertement critiqué la République tchèque pour ses baby box, mais aujourd'hui, la République tchèque n'a pas l'intention de les supprimer. Anna Kubišta.
En 2005, les premières baby box voyaient le jour en République tchèque. Les baby box, vous le savez, ce sont ces compartiments chauffés encastrés dans le mur d'un hôpital ou d'une institution publique où les parents peuvent déposer leur nouveau-né s'ils ne peuvent ou ne veulent pas s'en occuper. Le tout garanti 100% anonyme. Si des critiques avaient vu le jour à leur création, depuis l'opinion publique tchèque semble dans sa majorité favorable à leur existence, comme en témoignent certains sondages. Mais en 2011, le comité des droits de l'enfant de l'ONU s'est penché sur la question des baby box tchèques et sur leur compatibilité avec la Convention des droits de l'enfant. Et très vite, recommande à la République tchèque de supprimer ces boîtes à bébés qui, d'après lui, sont en violation de la Convention. À l'époque, Ludwig Hess, le fondateur des baby box et de l'association Statim en République tchèque, a défendu son projet.
J'ai bien peur que l'ONU n'ait pas compris le principe des baby box. Celles-ci, au contraire, remplissent les critères de la Convention des droits de l'enfant.
Pour leur fondateur, donc, il y a là une vraie incompréhension et un malentendu sur leur existence. Une commission composée de représentants de différents ministères, de médecins, de tribunaux chargés des tutelles, de députés, est chargée d'étudier le cas des baby box. Et lundi dernier, elle a fini par rendre son rapport. Pour la commission, les choses sont claires. Si théoriquement les baby box pourraient être supprimés par le biais d'une loi, cette possibilité n'a pas été retenue par la commission en question. Pas plus qu'elle n'a recommandé l'établissement d'une quelconque législation visant à déterminer les aspects technique des baby box. Au final, la commission n'appelle pas à la suppression de ces boîtes à bébés financées entièrement grâce à des donations privées. Toutefois, les baby box pourraient connaître quelques changements. Alors que le comité de l'ONU estimait que la République tchèque ferait mieux de s'attaquer aux causes des abandons d'enfants, les baby box devraient dorénavant comprendre un texte proposant aux femmes en détresse des solutions alternatives à l'abandon. Un texte qui figurerait d'ailleurs en plusieurs langues. De même, si à l'heure actuelle l'association Statim est seule à enregistrer les enfants recueillis, le ministère du Travail et des Affaires Sociales pourrait y être associé à l'avenir. C'est le fondateur des baby box lui-même qui est à l'origine de ces propositions. À l'heure actuelle, il existe 47 baby box en République tchèque qui ont recueilli 62 nouveaux-nés depuis 2005. Trois nouvelles boîtes à bébés sont prévues dans les mois qui viennent, en février à Karlovy Vary, en mars à Český Krumlov et fin avril à České Budějovice.
C'est une histoire désormais bien connue. Un certain Nicolas Winton, un homme d'affaires britannique, a organisé à la veille de la Seconde Guerre mondiale le départ en train de presque 700 enfants tchécoslovaques, pour la plupart d'origine juive, à Londres. Cet acte courageux a été révélé un peu par hasard dans les années 1980. Depuis, environ 300 hommes et femmes vivant aux quatre coins de la planète et qui avaient ainsi été sauvés d'une mort certaine ont été retrouvés. Toujours très discret sur ses activités de la fin des années 30, Nicolas Winton a aujourd'hui 102 ans. Son geste héroïque a inspiré le cinéaste slovaque Matěj Menáč pour le tournage de plusieurs films, documentaires et de fiction, tournés en coproduction tchécoslovaque et qui ont eu un écho international. Le dernier film de Matěj Menáč, à cheval entre documentaire et fiction, s'intitule « La famille de Niki ». Un livre éponyme a été présenté ce jeudi au Sénat tchèque en présence du réalisateur et également de représentants des écoles tchèques qui participent à un projet inspiré de l'histoire de Winton et de ses enfants. On écoute le cinéaste Matěj Menáč.
Ce projet éducatif permet aux élèves de jouer au détective. Ils peuvent rechercher les enfants de Winton qui n'ont pas encore été identifiés. Ils peuvent étudier les destins des 285 enfants retrouvés et les présenter en tant que journalistes ou écrivains. C'est un travail qui a une grande valeur. Les enfants sauvés par Nicolas Winton ont aujourd'hui plus de 80 ans. Et les jeunes d'aujourd'hui ont l'occasion de transmettre les informations acquises sur les destins de ces personnes aux générations futures. En fait, nous avons lancé ce projet surtout pour inciter les enfants à l'éducation éthique, pour les faire réfléchir sur l'importance des bonnes actions dans la vie.
Le projet La famille de Niki a été placé sous le patronage de la présidente de la Chambre des députés, Miroslava Němcová.
J'ai pu rencontrer plusieurs personnes sauvées par Nicholas Winton. J'ai fait la connaissance de Zuzana Marechova, par exemple, qui a assisté à la présentation du livre au Sénat. Ou encore d'Hugo Marom. Lui, il est originaire de Brno et on peut le voir dans le film La famille de Nicky. Avec lui, nous avons un projet de construction d'un monument près de la gare Wilson à Prague. Un monument qui serait dédié aux parents de ces enfants. On parle beaucoup d'enfants et de Nicholas Winton, mais M. Marom estime que ceux qui ont été les plus touchés par ce départ des enfants en Grande-Bretagne, c'était leurs parents. Il souhaite qu'on ne les oublie pas. Ce qui unit les hommes et les femmes sauvés par Winton, c'est d'une part leur destin extraordinaire et la gratitude qu'ils ressentent envers cet homme, et puis d'autre part, ce sont des gens qui tiennent à transmettre leurs témoignages, qui veulent en parler, qui vont le raconter dans des écoles. Ces témoignages sont authentiques, c'est autre chose que les lire dans des manuels scolaires.
La présidente de la Chambre des députés, Miroslava Němcová, a décidé de proposer pour la troisième fois consécutive Nicholas Winton au prix Nobel de la paix. Un peu de soleil dans cette rubrique économique aujourd'hui avec la boutique Provence Nature qui importe des produits régionaux du sud de la France en République tchèque. Markéta Karlecová travaille pour la boutique Provence Nature et nous présente ses activités au micro d'Anne-Claire Veluire.
Économie, commerce.
Alors bonjour Markéta Karlecová, nous nous trouvons actuellement dans un magasin, dans le magasin Provence Nature. Nous sommes dans le quartier de Smíchov à Prague, à deux pas du grand carrefour commercial d'Andiel, dans ce magasin Provence Nature. Alors est-ce que vous pouvez me décrire ce qu'on y trouve ?
On trouve 12 catégories de produits. D'abord on s'est orienté plutôt vers les huiles d'olive et les olives, qui sont d'après nous quelque chose de très typique du sud de la France. Mais au fur et à mesure, on a un peu élargi notre gamme de produits qu'on propose. Alors, on a beaucoup plus de vin qu'au départ. Nous avons des confitures qui sont très appréciées par les Tchèques parce que la qualité, elle est vraiment beaucoup plus élevée que ce qu'on trouve en République tchèque actuellement. On a du riz de Camargue, donc ce ne sont pas spécialement des produits de Provence, mais on élargit un peu la gamme des produits pour apporter des produits de qualité. On a du foie gras qui vient plutôt de l'ouest de la France, ce qu'on a trouvé en bon fabricant de foie gras, pas seulement de canard, mais aussi d'oie. Nous avons du thé, des épices.
Donc toute une gamme de produits, des spécialités locales ou régionales. Alors le magasin s'appelle tout de même Provence Nature. J'imagine qu'au départ, en tout cas, l'idée était d'orienter les clients vers des produits régionaux provençaux. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer d'où vient ce projet, depuis quand existe le magasin, qui a eu l'idée d'ouvrir ce magasin et d'importer ces produits provençaux?
Oui, effectivement, au départ, c'était des produits de Provence parce que les propriétaires passent de nombreuses années leurs vacances en Provence, dans la région de Camargue. Donc, tous les étés, ils passent leurs vacances dans cette région. Ils adorent les marchés à Saint-Marie-de-la-Mer, au Salon de Provence. Les produits là-bas sont vraiment de haute qualité. Ils voulaient apporter en République tchèque ces produits aux clients tchèques pour leur montrer un peu aussi l'esprit de ces marchés et la qualité de ces produits.
Donc des produits artisanaux, des produits régionaux, des produits provençaux au départ. Est-ce que la marque Provence est quelque chose que les Tchèques reconnaissent? Est-ce qu'ils savent tous où est la Provence? Est-ce qu'ils connaissent les produits qu'ils vont rencontrer dans votre magasin?
Je pense que la Provence, elle est très aimée par les Tchèques. C'est vraiment une région de rêve des Tchèques. Beaucoup d'entre eux voudraient passer la retraite en Provence, donc c'est vraiment une région très adorée par les Tchèques, et donc aussi les produits qui viennent de Provence et du sud de la France. Les vins sont très connus, les terrines, etc., et les épices de Provence. C'est plutôt des notions pour les Tchèques. Donc c'est pour ça qu'on voulait leur amener, leur procurer aussi un peu de Provence en République tchèque, au centre de Prague.
Parmi les spécialités provençales, j'ai pu noter de l'huile d'olive ou des tapenades. Est-ce que ce sont des produits qui sont connus par les Tchèques et puis aussi autre chose, où est-ce que vous fournissez quels sont vos fournisseurs pour ces produits très, très typiques et souvent fabriqués normalement de manière artisanale?
Je dirais que le vin, les olives sont assez connus, mais par exemple les tapenades, c'est déjà des produits qui sont nouveaux, qu'il faut montrer aux clients, qu'il faut leur faire goûter, parce que c'est vraiment des nouveautés. Les huiles d'olive et les olives, nous les achetons de 3 petits distributeurs, 3 familles qui ont leur propre plantation d'olives. Et donc c'est vraiment des toutes petites familles, des fabricants locaux. Et donc ça dépend, il y a des produits, les épices, les confitures, comme j'ai dit, les vins, c'est vraiment des notions, des choses connues de la France. Mais après il y a des nouveautés, des olives confites au sucre qu'il faut faire goûter, montrer aux clients.
Est-ce que ça marche? Est-ce que les réactions sont bonnes? Parce que parfois, ça peut être un produit un peu particulier. Les tapenades, ça a un goût assez spécial. Est-ce que les premières réactions sont bonnes?
Je pense que les réactions sont assez bonnes. Les gens aiment les nouveautés. À présent, ils aiment découvrir les nouveaux produits, qui ne veulent pas connaître seulement la cuisine tchèque et italienne ou chinoise. Ils veulent connaître ce qu'il y a pas loin de chez nous, mais qui n'est pas très connu. Les foie gras, c'est à la mode aussi. Les tapenades, ça commence. Il faut faire découvrir vraiment les produits, faire goûter.
Alors justement, vous avez ouvert depuis un an. Je vais oser vous demander comment ça marche. Est-ce que vous avez beaucoup de clients? Est-ce que votre activité monte de plus en plus?
Il y a des hauts et des bas, ça marche de bouche à oreille aussi un peu, donc comme on n'est pas sur la rue principale, il faut se faire connaître par différents moyens. On était présent à plusieurs foires, à plusieurs marchés, à Holešovice, à Vins et Délices. Donc vraiment, il faut s'approcher des gens, il faut leur montrer les produits, faire goûter les produits, et ça marche de mieux en mieux, donc on est très contents. Donc on a commencé par la boutique, et maintenant on commence plutôt vers le commerce en gros, qu'on s'oriente. On a mis en place la boutique en ligne en janvier 2011, donc ça fait déjà un an qu'elle est mise en place. Comme ça permet aux gens de tout le pays de pouvoir commander ses produits de qualité. Et on distribue dans les bars à vin, dans les spécialités gourmandes, dans les magasins bio, dans toute la République tchèque. Donc c'est plutôt qu'on s'oriente maintenant vers cette distribution en gros, pas seulement dans le magasin.
On est dans un quartier proche du lycée français de Prague et qui est assez peuplé de Français. Est-ce que c'est une partie de votre clientèle qui est importante ?
Oui, là, je dirais que la moitié de nos clients, ce sont des Français qui vivent à Prague, parce que la communauté française, elle est quand même assez large à Prague. Et la deuxième partie, ce sont des Tchèques, une partie qui ne connaissent pas du tout la Provence et qui veulent découvrir ces produits. Une deuxième partie qui n'ont pas eu le temps d'acheter les cadeaux ou bien tout ce qu'ils avaient besoin en Provence, et donc ils viennent le chercher chez nous, parce que vraiment, ils peuvent trouver chez nous des produits identiques ou authentiques de Provence. Donc nous avons ces plusieurs catégories de clients, comment dire.
Est-ce que c'est abordable pour le porte-monnaie d'un Tchèque moyen? Parce que même en France, ce sont souvent des produits qui sont un peu gastronomiques, donc un peu plus chers que des produits de base. Est-ce que ici, pour les Tchèques, c'est abordable?
Je dirais que des terrines, les vins, on peut trouver aussi à des prix très abordables, qu'on peut se procurer plusieurs fois par semaine. Après, il y a des produits, des vins bio de vraiment de haute qualité, des foie gras, du champagne. Donc ce sont des produits qu'on achète comme cadeau ou à Noël.
À Prague et puis probablement dans le reste de la République tchèque, on voit de plus en plus de magasins de délicatesses ou de produits artisanaux qui ouvrent. À votre avis, est-ce que ça fait partie d'un changement des modes alimentaires des Tchèques ?
Comme j'ai dit, je pense qu'à la mode, c'est pas seulement la cuisine italienne et tchèque et chinoise. On trouve beaucoup de magasins avec des délicatesses italiennes. Je pense que c'est à la mode de découvrir d'autres cuisines un peu moins connues.
Est-ce que vous avez des concurrents sur le marché tchèque qui importent des produits provençaux ou est-ce que vous êtes encore les seuls sur cette niche ?
Je pense qu'on est les seuls vraiment à s'orienter dans la région de Provence. Bien sûr, il y a beaucoup de distributeurs de vins français, il y a des distributeurs de délicatesses italiennes, etc. Mais on essaye de nous concentrer vraiment sur la Provence, sur le sud de la France, pour apporter une gamme complexe des produits.
Voilà, c'est par cette visite de la boutique Provence Nature que s'achève le programme préparé par la rédaction française de Radio Prague. Magdalena Hrozinková au micro vous remercie de l'avoir suivi.